Bonjour, de nouveau Alexis, votre auditeur chasseur à côté de Saint-Lô, dans la Manche. Je vous appelle car je suis triste. C'est la première fois que j'interromps volontairement l'écoute d'une de vos émissions, en l'occurrence celle ayant pour sujet « Faut-il interdire la chasse le week-end ?». Je n'ai pas pu supporter plus d'une demi-heure ce qui s'est transformé en tribune anti-chasse. Comme beaucoup d'hommes et femmes de mon village, je suis chasseur, mais aussi randonneur, père de famille, vététiste, jardinier en permaculture, etc. Et je ne suis pas forcément d'accord avec Willy Schran, notre président, car je pense que la chasse n'est pas parfaite là, et qu'elle peut et doit évoluer. Tout comme Jean-Pierre, votre auditeur de l'Isère, qui vous a laissé un message en préambule de l'émission, je souhaite simplement qu'on arrête avec cette guéguerre alimentée par les médias. Parlons-nous, regardons-nous, écoutons-nous, sourions-nous. En cette période de Noël, un peu de bienveillance ferait du bien à tout le monde. Au revoir.
Bonjour, c'est Philippe de Rémire-Montjoly en Guyane. Je voulais juste vous faire part d'un déboisement qui a lieu en ce moment à côté de chez moi. Apparemment, sans autorisation que nous avons pu trouver soit à la mairie, soit à la DGTM, c'est-à-dire auprès de la police de l'eau de Guyane. Donc ce sont des hectares de forêt amazonienne qui actuellement sont en train de se faire déboiser à coups de pelleteuse. Grâce à l'utilisation de l'applicatif Sentinelle de la Nature de France Nature Environnement, donc on a pu actionner là quelques personnes de l'autorité de la police de l'eau qui vont pouvoir nous aider. Donc si vous pouviez transmettre ce message venant d'Amazonie, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de semaine et de belles fêtes. Au revoir.
Oui, bonjour Antoine de Vendée. Grand merci, félicitations pour votre émission sur la chasse et pourquoi pas une émission avec un cadre de la FNSEA et un membre d'une association de défense de l'environnement sur le sujet de la distance entre les cultures arrosées de pesticides et les habitations. Merci beaucoup, bonne journée.
Bonjour, c'est Laura de Haute-Garonne. Je vous appelle suite à plusieurs témoignages concernant la disparition des grands cervidés de certaines forêts françaises. Pour vous dire que chez nous, dans le Piémont pyrénéen, ils ont été réintroduits il y a une vingtaine d'années sur au départ tout petit territoire en vallée de Barousse, qui leur a permis de prospérer et progressivement ils ont colonisé toutes les vallées voisines, notamment la vallée d'Ouaye d'où nous sommes originaires. Et où on peut maintenant les observer en très grand nombre pour le plus grand plaisir des randonneurs. Et puis voilà, je voulais aussi vous inciter inciter les auditeurs à partager leurs belles observations et pas seulement la peur qu'ils peuvent avoir pour l'avenir. Voilà, merci à tous et bonne journée.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
C'est un animal mythique dont nous allons parler cet après-midi. Il fait le bonheur des cabinets de curiosité et il est reconnaissable entre mille. Le papillon morpho avec ses ailes d'un bleu métallique et son apparence irréelle, eh bien ça fait de cet insecte un animal à part, pouvant atteindre les 20 cm d'envergure. Mais le morpho intéresse aussi beaucoup les scientifiques qui étudient son vol unique, la forme de ses ailes et sa coloration quasi hypnotique. Bienvenue donc chez les fous de papillons pour un voyage au pays des morphos avec nos invités Vincent Debré avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour.
Et Violaine Liorens en duplex de France Bleu Pays de Savoie Chambéry. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux biologistes de l'évolution à l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité et les papillons sont, on va le voir, vos principaux modèles d'études. Vincent Debat, vous êtes maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors vous, vous vous intéressez en particulier à la coévolution entre les formes des ailes et le comportement de vol des papillons. Et Violaine Liorens, vous êtes quant à vous directrice de recherche au CNRS et vous travaillez sur l'évolution des préférences sexuelles. Donc on va se retrouver dans un instant avec les messages, les questions des auditrices et des auditeurs qui sont peut-être d'ailleurs comme vous défendu de papillons. Pour cela, la page de la Terre au carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter avec les notes vocales. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Oui, je vous emmène dans l'Antarctique Ouest où un petit peu comme moi en fin d'année, le glacier Thwaites est en train de craquer.
Allons bon, voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestara et préparée par Anna Massardier avec Adèle Caglar à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter. Il existe dans la nature plus de 100 000 espèces de papillons et on pense à tort que cet insecte est très fragile. Le papillon s'est pourtant adapté depuis des millions d'années à des climats et des milieux naturels très différents, comme par exemple le morpho qui vit en Amazonie. Le secret de son incroyable couleur bleue réside dans la structure particulière de ses ailes. Cette structure naturelle lui confère de nombreuses autres propriétés qui sont étudiées par une science récente, la photonique.
Extrait d'une vidéo du Muséum National d'Histoire Naturelle pour parler donc de ces papillons morpho avec vous, Vincent Debat et Violaine Liorens. Il y a quelques jours, vous avez publié dans la revue Science une étude qui dévoilait quelques secrets autour, on le verra, du vol plané du papillon morpho que vous avez étudié au Pérou, dans le pays où, paraît-il, on en compte le plus grand nombre, en tout cas la variété la plus importante au monde. C'est vrai, Violaine Liorens?
Oui, alors il y a énormément d'espèces de morpho qui coexistent donc dans cette région de l'Amazonie péruvienne. On peut trouver jusqu'à 10 espèces, par exemple, au bord de la même rivière, qui donc vont voler à différentes hauteurs et à différents moments de la journée.
Et Vincent Debat, comment on explique que ces papillons aiment autant le Pérou alors?
Alors, c'est pas une question qui est propre. Enfin, c'est pas une diversité qui est propre au morpho. C'est-à-dire que cette région du Pérou est une région qui est très riche en espèces d'insectes, différents animaux. C'est un hotspot, enfin un point chaud de diversité. Et pour différentes raisons, mais en particulier le positionnement géographique à la rencontre des Andes et de l'Amazonie et de la vallée amazonienne. Donc une grande diversité d'environnement qui est propice à la diversification des espèces.
Donc c'est tout logiquement que vous avez choisi d'aller au Pérou, c'est ça, passer plusieurs mois pour étudier ce papillon?
Ah, tout à fait. Alors on a commencé ce projet dans le cadre du master au départ de notre étudiant Camille Leroy et qui nous a accompagnés sur le terrain. Il a poursuivi en thèse, donc il a passé lui près d'un an sur le terrain à étudier ces morphos, donc dans des conditions plutôt sympas, mais parfois aussi un peu compliquées. Ouais. Et donc on a étudié en particulier le vol de ces papillons, d'abord en conditions complètement naturelles, c'est-à-dire qu'on s'est installé dans des endroits où on en voyait beaucoup passer, on les a filmés pour documenter, quantifier vraiment leur comportement de vol naturel sans interférence avec les hommes. Ouais. Ensuite, comme l'objectif était de vraiment quantifier en détail ce vol, on a construit sur le terrain une cage de vol. Alors une cage de vol pour des morphos qui sont quand même des très grands papillons, on l'a pas mentionné, enfin si d'ailleurs dans votre
20 centimètres, j'ai dit tout à l'heure.
Pour les plus grands, hein, c'est ça. Ouais. Alors ils font pas tous 20 cm, mais bon, ouais. Voilà, c'est quand même des papillons de grande taille. Et donc les faire voler en captivité, c'était un challenge assez compliqué. Enfin, on savait pas s'ils allaient voler ou s'ils allaient se laisser tomber par terre. Donc c'était un peu de l'improvisation, mais ça a extrêmement bien marché. On a installé 3 caméras haute vitesse dans notre grande serre. Et on a filmé individuellement les morphos qu'on avait capturés avec notre filet sur le terrain.
Ouais.
Et voilà, on a observé des vols absolument fantastiques avec des phases planées, notamment pour les espèces de morphos de canopée. Ouais.
Donc ceux qui vont le plus haut, au sommet des arbres.
Tout à fait, ceux qui volent vraiment, vraiment très haut.
Ouais. Violaine Liorens, c'était vraiment ça l'objectif, c'était d'étudier vraiment le morpho donc du Pérou dans toutes les conditions possibles, à la fois donc en liberté, on l'a compris, dans votre installation, et puis dans les sous-bois comme sur la canopée.
Alors oui, quand vous dites le morpho, en fait, on devrait plutôt dire les morphos, puisque ouais. C'est différentes espèces qu'on a pu étudier lors de cette expérience. Et donc, effectivement, comme vous le précisez, il y a des espèces qu'on trouve plutôt en train de voler dans la canopée et d'autres qu'on observe plutôt dans le sous-bois. Et l'idée, c'était de comparer leur comportement de vol dans des conditions similaires. Et donc, une des observations majeures, c'est que, effectivement, dans les espèces de canopée, les papillons ont des phases de vol plané beaucoup plus longues. À comparer des espèces de sous-bois, pour lesquelles les papillons de ces espèces présentent plutôt un vol plus rapide, plus erratique et avec une fréquence de battement des ailes plus importante.
Eh bien, on rentrera dans les détails de cette étude, donc publiée dans Science à la fin du mois de novembre. Vincent Debat, il paraît que vous êtes un fou de papillons. Et c'est vrai que c'est un sujet en général d'amateurs passionnés. Ça a été votre cas, vous? Ça fait longtemps que vous vous intéressez aux papillons? Vous avez été collectionneur quand vous étiez enfant ou pas?
Alors oui, je suis venu à la biologie par ma passion des papillons. Quand j'étais gamin, je les collectionnais, je cavalais partout avec mon filet. Mmh. Et donc, pouvoir aujourd'hui travailler sur les morphos qui sont un peu... l'archétype du papillon, enfin c'est le papillon qui fait rêver tous les amateurs de papillons, le voir voler dans la nature, ça c'était quelque chose d'assez exceptionnel.
Et ça vous a guidé vraiment après, alors? Alors cette, ça, cette passion, c'est... vous ne l'avez pas quittée finalement?
Ah, je l'ai jamais quittée, mais comment dire, c'est resté une motivation de plaisir. Et donc, bon, moi, je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise motivation pour faire des sciences, qui, bon, évidemment, petit à petit, a été remplacée par des questions plus intellectuelles sur l'évolution de ces papillons, ouais. Et la diversification de à la fois des formes d'ailes, des vols, des couleurs, etc.
L'amateur est devenu scientifique.
et par rapport à ce que vous disiez sur le fait que petit, vous courriez comme ça avec votre filet à papillons pour les récupérer. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la disparition des insectes et aussi des papillons en particulier, je veux pas plomber l'ambiance pour les gens qui nous écoutent, mais est-ce que vous recommanderiez de continuer à le faire ou essayer au maximum? Est-ce que ça a vraiment un impact, en fait, où les enfants peuvent continuer de le faire?
Franchement, moi, ma position personnelle, je sais pas si c'est partagé par beaucoup de monde, mais je pense que, au contraire, j'encouragerais vraiment les gamins à le faire, parce que l'impact que ça peut avoir est vraiment minime. Et au contraire, la connaissance, toute connaissance de notre environnement, de l'écologie, des organismes qui nous entourent, est un point d'appui pour leur protection.
Bon, on peut les capturer puis les relâcher aussi après.
On peut faire ça aussi.
On les met voilà. Dans le filet, on les observe et on les relâche. Et vous, Violaine Lurens, ça a commencé quand, votre intérêt? Est-ce que ça a été à partir du moment où vous étiez scientifique ou c'était bien avant?
Moi, je travaille sur les papillons uniquement depuis une dizaine d'années, donc ouais. Depuis mon recrutement au CNRS. Moi, je me suis intéressée à pas mal d'organismes vivants, des poissons aux plantes, en passant par l'homme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment quels sont les moteurs de l'évolution notamment des traits, c'est-à-dire des caractères qu'on peut observer sur les différents organismes, et notamment, comme vous le disiez tout à l'heure, comment l'évolution des préférences sexuelles peut modifier l'évolution de certains caractères, comme par exemple la couleur chez les papillons.
Alors, des collectionneurs de papillons, il y en a beaucoup, certainement, certains nous écoutent, et vraiment, envoyez-nous vos messages pour témoigner, pour qu'on comprenne aussi pourquoi vous intéressez autant à cet insecte. France 3 Nouvelle-Aquitaine en a rencontré un, en tout cas en janvier 2020. Ça fait l'objet d'un reportage. En voici un extrait sur l'un des plus grands collectionneurs de France.
Des dizaines de milliers de papillons répartis dans 600 coffrets. Une collection unique et foisonnante.
C'est une forme plus rare que... qu'on rencontre moins souvent que la... Ouais.
La classique, c'est celle-là.
La collection d'une vie, celle de Claude Dupont, qui a surpris les experts.
Nous ne le connaissions pas, il était par ailleurs antiquaire, c'est quelqu'un de Bordeaux. Il avait comme passion les papillons. Et il a constitué une sorte de petit musée, en fait. Il avait une annexe dans son jardin, dans laquelle il conservait tous les papillons, dans des très bonnes conditions, à l'abri de la lumière.
Des précautions qui valent à ces papillons d'avoir conservé leurs incroyables couleurs, chatoyantes ou métallisées. Certains remontent au début des années 30 et beaucoup viennent du monde entier.
Vous en avez une grosse partie qui sont exotiques, donc qu'il a acquis par des correspondants basés dans des différents pays auprès de qui il achetait les spécimens. Et vous avez aussi des papillons de France, lui-même chassait en France.
Des collections systématiques, parfaitement étalées, comme ces papillons de Gironde, au biotope aujourd'hui disparu, qui côtoient des pièces exceptionnelles.
Notamment, vous avez ici un couple d'ornithoptères alexandrés qui vient d'une petite vallée de Nouvelle-Guinée et qui est vraiment rare parce que ils volent très haut, ils volent peu de temps dans l'année et il est très localisé dans un endroit d'accès très difficile.
Un spécimen convoité récemment, un mâle seul s'est vendu à Drouot 12 000 euros.
Voilà, extrait de ce reportage de France 3 Nouvelle-Aquitaine en janvier 2020. Vincent Debas, ça se conserve bien des papillons lorsqu'on les collectionne ou il y a des précautions à prendre?
Il y a toute une procédure pour les préparer. Il faut les étaler, mettre les ailes de façon standardisée, ensuite les faire sécher. Une fois qu'ils sont secs, on peut les conserver. Il faut que ce soit à l'abri de la lumière, en tout cas.
Pour garder la couleur, justement.
C'est ça, les pigments des ailes sont photosensibles, ont tendance à se dégrader avec le temps.
En tout cas, vous avez la plus belle collection du monde, quand même, au Muséum National d'Histoire Naturelle, on peut le rappeler. Hein.
Alors oui, enfin, on a la plus grande collection de morphos publics.
Combien vous en avez?
On a plus de 7000 spécimens, on les a pas comptés individuellement, mais voilà, vraiment une très grande collection, et dont d'ailleurs une partie a été léguée par un amateur, je le mentionne comme ça en relation avec ce qui est passé avant, Laurent Schwartz, qui était médaille Fields, et qui était un amateur de papillons, et qui a donné une assez grande collection de morphos au muséum.
Il est en photo d'ailleurs dans le livre de Serge Berthier que je signale tout de suite, L'éveil du morpho, qui est sorti chez Flammarion au mois de septembre et qui est un ouvrage de référence sur la question. Allez, on se retrouve dans un instant, il y a des questions, Camille, hein, qui sont arrivées déjà. On vous les transmet dans quelques minutes. Des hommes, allons bon, la voix de Léonie Pernet à l'instant.
La Terre au carré sur France Inter.
C'est quoi ?
Ah, ça, ce sont des comètes de Madagascar. La femelle et le mâle, tu vois. Et le plus petit, c'est le mâle. Bon. Tu vois le jaune, là ? C'est un citron. On le trouve à la campagne. Tu as dû en voir déjà.
Jamais.
Pas très observatrice.
J'ai jamais été à la campagne.
Oh, bon, mais enfin, tu sais au moins comment ça naît, un papillon.
Non.
Ah, ça se complique. Non, regarde ça. Ça, c'est une chenille de papillon lune, tu vois. Elle va tisser sa nymphe et rentrer dans ça, dans sa crie.
Chrysanthème ?
Non, chrysalide. Mais qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école, hein ? Et autour de la chrysalide, il y a le cocon. Tiens, regarde, voilà. Ça, c'est un cocon. Et dans une dizaine de jours, ce sera un papillon.
Ce truc horrible, un papillon ?
Ah oui.
On aimerait bien avoir un prof comme Michel Serrault dans l'extrait de ce film Le Papillon de Philippe Muille qui était sorti en 2002 et c'est l'objet de notre Terre au carré et les morphos d'ailleurs en particulier avec Vincent Debat et Violaine Llorens qui est avec nous en duplex de France Bleu Pays de Savoie. Vincent Debat, avant de passer aux questions, le morpho, il est toujours bleu, c'est toujours ce bleu mythique électrique là qui caractérise ce papillon.
Alors non, et c'est vraiment une question intéressante, c'est-à-dire que les morphos, au-delà d'être des animaux vraiment magnifiques, sont des animaux qui sont intéressants d'un point de vue de l'évolution, en particulier parce qu'ils sont extrêmement diversifiés. Et donc, ils sont très connus par le bleu iridescent de certaines espèces, mais y compris parmi les espèces bleues, où on a une grande diversité, on a des bleus pâles, des bleus foncés, plus ou moins brillants, et on a surtout des espèces de morphos qui ont perdu le bleu, qui sont blanches ou brunes ou grisâtres pour d'autres. Et ça, comprendre les processus évolutifs impliqués dans cette diversification, c'est vraiment ce qui nous intéresse.
Alors, on a des questions donc sur franceinter.fr. Yann nous écrit comment les écailles sur les ailes du papillon, apparues sur les ailes des papillons, comment justement est-ce qu'elles sont apparues et qu'est-ce qu'elles ont apporté pour justifier le fait qu'elles y soient encore aujourd'hui ?
Eh bien, alors les écailles sur les qui recouvrent donc les ailes de papillons sont des poils modifiés. C'est-à-dire sur les ailes d'autres insectes, on a des tout petits poils, un par cellule. Et donc ils ont été modifiés en espèces de petites palettes, en petites tuiles miniatures, donc ces écailles. Et donc on pense que vraiment le succès évolutif de cette innovation est lié à cette diversité de patrons de coloration qu'il permet. Parce que c'est vraiment la juxtaposition de ces écailles qui sont chacune d'une couleur particulière.
Donc comme des petites tuiles, hein, c'est ce exactement, que vous expliquez.
Exactement,
hein,
c'est quand on regarde au microscope une aile de papillon, on a l'impression de voir un toit comme les toits de certains endroits en Bourgogne, par exemple, avec des dessins.
Ouais, on voit bien, ouais.
Et c'est vraiment ces écailles qui forment la diversité des motifs. Et en particulier, on a des motifs qui rendent des papillons très, très cryptiques, très difficiles à percevoir dans leur milieu, qui les font ressembler à des feuilles, par exemple. Et tout ça, donc, est le résultat de millions d'années de sélection naturelle.
Alors, on a une autre question de Romain, toute simple. Peut-être que vous allez pouvoir répondre, Julien Lurence. Comment vole un papillon, tout simplement?
Alors, c'est pas une question si simple. En
voilà.
Fait.
Merci de l'avoir posée.
Mais pour répondre succinctement, effectivement, les papillons, ils ont un vol assez particulier par rapport à d'autres insectes, où on observe cette alternance en fait de phases de vol battues où les ailes bougent et de phases planées. Donc ces alternances peuvent être plus ou moins longues la fréquence des battements des ailes peut être différente selon les espèces, mais il y a effectivement cette alternance de ces deux types de phases qui caractérise le vol des papillons.
Et Violaine Lurence, puisqu'on parlait de ces écailles, est-ce que c'est ça qui donne la couleur justement aux ailes des papillons?
Oui, alors donc chez pas mal d'espèces, les écailles sont riches en pigments qui peuvent leur conférer différents types de couleurs. Chez les morphos, ils ont aussi des structures qui sont très particulières et qui leur confèrent ces propriétés qu'on va qualifier de iridescentes, ce qui veut dire que même chez des espèces qu'on va qualifier de bleues, en fait, selon l'angle avec lequel on va regarder le papillon ou l'angle avec lequel on va l'éclairer, eh bien, en fait, on va se rendre compte que la couleur n'est pas tout à fait la même. Et c'est-à-dire que la longueur d'onde qui va être reflétée par les ailes va être un peu différente selon l'angle d'éclairage.
Et est-ce que la forme des ailes, Vincent Debat, est toujours la même?
Alors non, et c'est le point de départ d'ailleurs de nos études récentes, puisqu'on a commencé j'ai commencé il y a quelques années à m'intéresser aux morphos à partir de nos collections, et j'ai mesuré, avec des collègues et des étudiants, on a mesuré la forme des ailes, on s'est rendu compte justement de cette grande divergence de forme d'ailes entre les espèces de canopée et les espèces de sous-bois. Et donc ça nous a mis la puce à l'oreille, et ça nous a motivé pour aller sur le terrain étudier ces papillons dans leur milieu pour comprendre l'origine de cette divergence de forme d'ailes.
Alors justement, cette publication de Science, parlons-en tout de suite, parce qu'elle lève le voile sur un certain nombre de questions qu'on se posait au sujet du vol plané, par exemple, de ce papillon morpho. Est-ce que d'abord c'est une pratique, le vol plané chez les insectes qui volent, qui est très fréquente?
Alors non, c'est pas très fréquent. Il y a, grosso modo, on considère qu'il y a les papillons et les libellules qui présentent des phases de vol plané, mais chez les papillons, chez les morphos, on a vraiment un vol qui est très particulier. C'est combiné aussi à la grande taille de ces papillons, mais quand on est dans une rivière au Pérou, parfois, ça arrive même relativement souvent qu'on détecte un morpho par l'ombre qu'il projette sur le sol, à la manière d'un oiseau qui plane. Ouais. On lève la tête et on voit que c'est un morpho planeur. Donc voilà, c'est cette particularité-là qu'on est allé étudier au Pérou. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a commencé par étudier leur comportement en conditions naturelles, puis dans la cage. Avec les différentes caméras qu'on a utilisées, on a pu reconstituer les trajectoires en 3D de ces papillons et quantifier tout un tas de paramètres détaillés du vol, la vitesse, l'accélération, la sinuosité de la trajectoire, la fréquence des battements, etc. Et donc, on a montré vraiment de façon précise cette différence de vol entre espèces de canopée et de sous-bois.
Et alors justement, Violaine Lurence, pour continuer sur la question de Camille, la forme de l'aile influence le vol de ces papillons?
Alors voilà, on a travaillé avec des physiciens de l'université de Wageningen aux Pays-Bas, et qui en fait sont des spécialistes de l'aérodynamique du vol, et qui sont capables en fait de simuler en fait les flux d'air qui vont se passer autour des ailes des papillons quand ils sont en train de planer. Et donc, on leur a donné en fait les différentes formes d'ailes qu'on peut observer chez les espèces de sous-bois et de canopée. Et ils ont calculé en fait leur performance lors du vol plané. Et donc, ce que on a pu montrer, c'est que les différentes formes des différentes espèces qui volent dans la canopée leur confèrent une meilleure efficacité du vol plané. touristes. Donc ça, c'est cohérent avec l'hypothèse d'une adaptation à ce milieu ouvert qui est la canopée, dans lequel le vol plané serait avantageux pour les individus qui volent dans ce milieu.
Monsieur Hélène Lorenz, le vol plané, on le trouve plus en haut, au sommet des arbres, ou dans les sous-bois? Parce qu'on a du mal à imaginer, avec toutes les embûches que le papillon rencontre, qu'il puisse vraiment s'amuser à faire des vols planés pendant très longtemps.
Non, en fait, effectivement, donc c'est chez les espèces qui volent dans la canopée qu'on observe à la fois des formes d'ailes adaptées au vol plané et aussi un comportement avec des longues phases de vol plané beaucoup plus importantes que chez les espèces de sous-bois, chez lesquelles, effectivement, les papillons qui volent en sous-bois, bah, ils sont dans un milieu beaucoup plus fermé, avec beaucoup plus d'obstacles. Et donc, probablement que les pressions de sélection qui agissent sur l'évolution du vol sont différentes pour les espèces qui vivent dans le sous-bois.
Et est-ce que ça vole vite un papillon, Vincent Debat, un morpho?
Alors oui, les morphos sont des papillons qui sont vraiment difficiles à attraper. Ils volent vraiment très vite. Leur bleu iridescent, elle les rend visibles de loin. D'ailleurs, il y a des récits de pilotes d'avion qui voient des flashs bleus quand ils survolent des fois la forêt amazonienne. C'est vraiment cet effet visuel. Donc on les voit venir de loin. Mais le problème, c'est que quand ils s'approchent de nous, ils sont vraiment insaisissables. Ils sont vraiment difficiles à capturer.
Et quand vous dites vite, c'est... On peut le mesurer, on peut mesurer la vitesse.
Ah oui, on l'a mesuré. Bon, là, c'est une question, je ne sais plus.
Violaine Lurin, vous avez la réponse, vous, ou pas?
Non, je ne sais pas. Il faudrait demander à notre étudiant Camille Leroy. Ah.
Qui d'ailleurs
s'il nous écoute, envoyez-nous le message.
Il nous écoute.
Ah ben alors voilà. Ben
alors on le salue, d'autant que c'est le premier signataire de la publication dans Science, et c'est votre doctorant. Donc il faut aussi le signaler. Et ben s'il nous écoute, qu'il nous envoie la réponse. On revient vers vous dans un instant pour parler du morpho dans la Terre au carré.
France Inter. La Terre au carré.
14h31, Camille passe au vert, Camille Cronier.
Et je vous reparle de l'ami Thwaites, Missy Thwaites.
One of the largest, widest glaciers in Antarctica. It's huge.
L'un des plus grands et larges glaciers de l'Antarctique, c'est énorme, dit Ted Scambos, glaciologue américain, qui participe avec une centaine d'autres scientifiques à un méga projet d'étude du monstre de 600 km de long, 120 km de large et 3 km de profondeur. Un projet à 50 millions de dollars parce que l'heure est grave. Le glacier va craquer.
On va assister à un changement spectaculaire, probablement en moins de 10 ans. Et d'ici la fin du siècle, ce glacier pourrait à lui tout seul avoir un impact significatif sur la montée des eaux.
À savoir 70 cm de niveau en plus à terme, mais pas tout d'un coup, hein, quand même, rassurez-vous. Cela dit, c'est catastrophique quand on sait qu'un mètre prévu dans les différents scénarios du GIEC aura déjà des conséquences jusque sur nos côtes à nous. Alors, que se passe-t-il? Les glaciologues du méga-projet ont fait une conférence de presse la semaine dernière pour alerter sur la situation et valider ce qui était déjà dans les tuyaux depuis quelques temps. C'est pour ça que j'en avais parlé de Thwaites au mois de mai également. À savoir d'abord qu'il y a de l'eau chaude venant de l'océan qui s'introduit sous la glace et la fait fondre, mais ce n'est pas tout. Et là, c'est une autre scientifique, Erin Pettit de l'Université de l'Oregon qui explique.
L'ice shelf, la plateforme de glace, pourrait se briser en centaines d'icebergs, comme le pare-brise de votre voiture. Ces dernières années, rien que depuis 2016, on a vu des fissures se propager à des vitesses alarmantes, largement au-dessus de 10 km par an. Chaque nouvelle image satellite que nous obtenons montre des fissures plus profondes et plus longues.
Et un petit peu, vous savez, le dit comme le pare-brise donc de la voiture qui se craquelle de plus en plus, sans être sûr, cela dit, que ça va finir en miettes un jour. Et le problème avec le glacier Thwaites, c'est cette partie dont parlait la chercheuse, le ice shelf, c'est-à-dire une sorte de langue de glace, un gros bloc qui déborde de la côte sur la mer, eh bien c'est qu'elle retient comme un bouchon le glacier qui avance et pousse derrière. Donc, si ce bouchon saute, eh ben on ouvre les vannes, tout va s'écouler derrière, d'où le risque de monter des eaux. Et tout aujourd'hui, donc l'eau chaude, les fissures, plus le fait qu'il est de moins en moins accroché, agrippé à ce qu'il y a en dessous, tout aujourd'hui donc semble favoriser le scénario catastrophe d'ici 2030, dans les 5 ans même d'après les chercheurs. Autant vous dire que Thwaites s'est surveillé comme le lait sur le feu, y compris From France, l'Institut de géosciences de l'environnement à Grenoble, où Catherine Ritz est glaciologue.
Ce glacier-là, c'est vraiment le gros danger. Les Américains l'appellent le glacier de l'apocalypse, mais moi j'ai plutôt tendance à dire que c'est le talon d'Achille de l'Antarctique de l'Ouest.
Mais calmez-vous, respirez, oui. La situation est grave, oui, mais pas désespérée comme on dit, en tout cas pas totalement.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une petite montagne sous-marine, juste là où c'est en train de casser. et on pourrait envisager, avec un climat un peu plus frais ou même égal à l'actuel, que l'ice shelf se repropage et aille se reposer dessus.
Autrement dit, qu'un nouveau bouchon se forme, mais au rythme où on va sur le réchauffement climatique, ben c'est pas gagné. Dernier espoir, le fait que cette accélération ne soit que temporaire et sporadique. Mais les chercheurs, la semaine dernière, n'avaient pas trop l'air de pencher pour et s'orientaient plutôt vers une débâcle complète du secteur.
C'est vraiment sérieux. C'est celui qui a le plus gros potentiel nuisible.
Le tout surveillé donc par satellite, robot, bateau ou survol, et des alertes depuis déjà 30 ans sur cette partie du globe, l'Antarctique Ouest, qui est l'une de celles qui se réchauffe le plus rapidement. Vous avez donc bien compris que le fait que Thwaites reste bien au frais et bien en place est crucial, et que là aussi la diminution des émissions de gaz à effet de serre est essentielle, même si ça ne se passe pas directement sous notre nez.
Et c'est Camille Passauvert, et c'est à réécouter bien sûr sur la page de la Terre au Carré.
Vincent Debat, est-ce que, là on parle de la montée des eaux, les conséquences de montée des eaux, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences, y compris par exemple sur les papillons, ou là en l'occurrence sur les habitats, il n'y a pas de souci, en tout cas pour les papillons?
Disons que les plus grandes menaces sur les papillons en général, et les morphos en particulier, c'est la destruction de leur habitat, la fragmentation de l'habitat, la déforestation de la forêt amazonienne, ça c'est vraiment, vraiment problématique.
Et je parlais aussi de l'Antarctique, les papillons, est-ce qu'il y en a dans des zones, alors évidemment pas l'Antarctique, mais est-ce qu'il y a des papillons dans des zones froides du globe ou pas?
Oui, bien sûr, il y a des papillons qui vivent en altitude, par exemple vraiment dans la montagne, les Apollons, c'est des papillons de hauteur.
Ils sont gros de coup ou tout petits au contraire?
Les Apollons sont de taille intermédiaire, moyenne, quelques centimètres de d'envergure. Après, je suis pas spécialiste des faunes vraiment vraiment nordiques.
Mais on en trouve dans les zones froides.
On en trouve dans les zones froides, mais bon, pas trop froides. C'est des ectothermes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de régulation de la température interne et donc ils sont dépendants des conditions. Donc ils doivent s'exposer au soleil pour se réchauffer, par exemple.
On entendra Serge Berthier d'ailleurs dans un instant nous parler des morphos qui arrivent justement avec les températures très hautes à rafraîchir un petit peu l'air autour d'eux. On verra comment. Et puis bien sûr les questions, vous poursuivez vos messages sur franceinter.fr. Beautiful Life et la voix de Michael Kiwanuka sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Nous, quand il dépasse 40 degrés, on est mal, mais rien de mortel dans tout ça. Ces animaux-là, si leur température dépasse les 40 degrés parce qu'ils absorbent trop, ils n'ont pas tellement de solutions. Donc ils ont développé une stratégie qui est due à la chitine en particulier. Dès qu'elle est trop chaude, eh bien elle se met à émettre dans l'infrarouge plus que ne le ferait un autre élément. Donc en fait, c'est absolument extraordinaire. Dès que le papillon est très chaud, il se met à rayonner de l'infrarouge et donc sa température baisse. Et dès que la température baisse, il redevient absorbeur et donc la température monte. Il arrive à se stabiliser à la bonne température qui pour eux est aux alentours de 40 degrés.
Voilà la voix du physicien Serge Berthier, auteur donc de ce livre « L'éveil du morpho ». Bio, inspirez-vous chez Flammarion parce que justement, Vincent Debat, il y a beaucoup d'études qui sont menées aussi qui pourraient donner des applications par rapport à ce qu'on observe sur les papillons.
Oui, apparemment. Après, c'est pas ma spécialité, donc je sais pas trop.
Mais en tout cas, on peut s'en inspirer pour des technologies qui pourraient servir à l'humain.
Il y a des applications d'études du bleu des morphos qui servent à, par exemple, faire des billets en falsifiable ou des choses comme ça.
Et Violaine Lurin, sur la température là que décrivait justement cette stratégie dont parlait Serge Berthier pour que le papillon puisse baisser la température autour de lui, ça c'est quelque chose d'assez facilement quand même.
Alors oui, il y a beaucoup d'études en fait sur l'évolution de la coloration des papillons qui prennent en compte en fait les capacités de thermorégulation liées à la présence de pigments comme la mélanine par exemple, et donc qui explique que on a des variations de la proportion de surface noire par exemple sur les ailes en fonction de l'altitude ou simplement de la température dans lesquelles évoluent les différentes espèces.
Mais donc, on ne sait pas, pour les morphos, là, bleu, on ne sait pas pourquoi bleu, Vincent Debat.
Alors, justement, c'est une question que je pensais, moi, quand j'ai commencé à travailler sur les morphos, que je pensais résolue depuis longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on ne sait pas bien pourquoi est-ce que les morphos sont bleus. Donc, c'est vraiment une question qui nous intéresse. Alors, il y a différentes pistes, mais celle qui nous intéresse le plus, c'est un effet, ça serait un effet anti-prédateur. Ce que je vous disais tout à l'heure, que les morphos volent vraiment vite et qu'on les voit de loin, mais ils sont très difficiles à capturer, alors du fait de leur vitesse, mais aussi du fait de leur coloration.
Oui, mais justement, le fait qu'ils soient très visibles, ça pourrait être quelque chose de préjudiciable par rapport aux prédateurs.
Tout à fait, mais justement, vous allez comprendre, c'est qu'ils ne sont bleus que sur la face dorsale. Sur le ventre, ils sont marrons. Vous les retournez, ils sont marrons.
Donc ils se fondent complètement.
Ils se fondent dans leur environnement quand ils exposent leur face ventrale. Et donc, quand ils sont en vol battu, tantôt ils exposent la face dorsale bleue, ils flashent. Tantôt ils exposent la face ventrale, ils disparaissent. Et donc, ça vous fait un papillon qui arrive à toute allure et qui clignote. Et donc,
ça rend dingue le prédateur.
Alors, et justement, sur les prédateurs, pardon, j'interromps, mais Pauline demande qui sont d'ailleurs les prédateurs des papillons sur franceinter.fr. Alors,
on imagine, on a des éléments concrets pour le dire, mais c'est plutôt des oiseaux. Des oiseaux insectivores, mais après, il y a aussi des lézards qui peuvent les attaquer aussi.
Donc ça peut venir d'en haut et d'en bas.
Ouais, tout à fait.
Mais le fait qu'ils clignotent, alors, qu'est-ce que ça fait?
Justement, là, quand ils clignotent, d'expérience de prédateurs humains, ça les rend très difficiles à capturer parce que vous n'arrivez pas à prédire la position. Et donc on pense que donc ça fait la
donc
même chose
bon
sur des oiseaux. Et à tel point que il y a quelques papiers qui suggèrent que les oiseaux insectivores renoncent à les attaquer. C'est-à-dire quand ils voient un morpho qui passe, ils y vont
tous
même pas.
Aux abris.
Et quand ils y vont, la plupart du temps, ils loupent.
Ouais.
Et donc on pense vraiment que ce bleu, à la fois contribue à les rendre difficiles à capturer et que en retour ça signale aux prédateurs cette difficulté de capture.
Et Violaine Lurins, du côté de la sélection sexuelle, alors est-ce que cette couleur elle joue un rôle aussi ou pas?
Alors une anecdote qu'on aime bien raconter, c'est que notre étudiant Camille, il aime bien porter des t-shirts bleus. Et quand il allait sur le terrain, très souvent, on voyait des morphos qui se précipitaient sur lui.
Ah.
Et donc effectivement, c'est il y a une hypothèse sur laquelle on travaille, c'est l'hypothèse que le bleu joue un rôle d'attraction en fait vis-à-vis des morphos eux-mêmes. Et donc, on a également fait des expériences pour tester ça dans le cadre de la thèse de Camille. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que les mâles sont très attirés par le bleu. D'une part, par le bleu arboré par d'autres mâles. Donc, ils ont son comportement très territorial, agressif. Et également, par le bleu arboré par les femelles, desquelles ils vont s'approcher. Et avoir plutôt, dans ce cas-là, un comportement de parade. Ouais. Donc, l'évolution de la coloration chez les papillons, c'est aussi, en tout cas, c'est les papillons de jour, c'est aussi fréquemment lié à des pressions de sélection de type sexuel, c'est-à-dire des préférences des mâles ou des femelles pour, vis-à-vis de telle ou telle couleur, et chez les morphos, par exemple, vis-à-vis du bleu.
Et justement, Violaine Lurence, je me posais la question, comment ça se reproduit? Est-ce que vous pourriez nous rappeler comment se reproduisent les morphos, en l'occurrence?
C'est une reproduction qui est sexuée, donc il y a un événement d'accouplement entre un mâle et une femelle, et ensuite les femelles vont rechercher des plantes, donc ici dans la forêt amazonienne, sur lesquelles elles vont pondre leurs œufs. Elles choisissent pas forcément au hasard les plantes sur lesquelles elles vont pondre leurs œufs, elles vont choisir des plantes qui sont bien appétissantes et bien digérées par les chenilles qui vont sortir des œufs. Et puis comme ça a été rappelé dans le petit reportage que vous avez fait écouter. Donc les chenilles vont manger les feuilles et puis ensuite elles vont se mettre en position de chrysalide. Alors chez les morphos, la chrysalide, la phase de chrysalide, ça peut durer plus d'une semaine jusqu'à parfois 10 jours selon les conditions de température. Et de cette chrysalide, en fait, va émerger un papillon adulte avec des ailes.
Mais l'accouplement, il se fait au calme? C'est-à-dire qu'il y a un moment où il se pose quand même pour s'accoupler, ou ça peut se faire en vol aussi?
Non, pardon. Non, ça se fait poser, oui.
Très bien. On peut d'ailleurs rappeler, Vincent Debac, que le papillon est un pollinisateur, hein, parce qu'on parle tout le temps des abeilles, mais il a aussi un rôle très très important pour la pollinisation. Hein.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas que les abeilles, il y a aussi d'ailleurs les diptères, les mouches ouais. Et les papillons, donc ils ont un rôle de pollinisateur très très important. Un autre aspect écologique important, c'est que les papillons servent de nourriture à beaucoup beaucoup d'organismes, qu'on a mentionné les oiseaux, mais sous nos latitudes, la mésange charbonnière, je crois qu'à certains moments de sa vie, elle peut avoir jusqu'à 50% de papillons, de chenilles en particulier, dans son régime alimentaire.
Alors Elisa demande, elle, toujours sur franceinter.fr, ce qu'elle pourrait semer ou planter dans son jardin pour accueillir les papillons. Est-ce que vous auriez des conseils à lui donner?
Ouais, c'est des plantes à fleurs.
On parle souvent des arbres à papillons, oui, là. Est-ce que c'est vraiment...
Oui, alors c'est des arbres qui sont très odorants, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui attirent les papillons, et donc effectivement, ça, vous allez avoir beaucoup de papillons chez vous.
Si Violaine Lurence, d'autres conseils pour notre auditrice, s'il vous plaît?
Oui, pareil, hein, des plantes à fleurs, les arbres à papillons, ça marche très bien. On peut avoir, même en Île-de-France, des pans du jour, par exemple, qui viennent sur ce type de plantes.
Est-ce que vous connaissez l'île aux papillons, Vincent Debat?
Oui, non.
À Noirmoutier?
Eh
bien, c'est un endroit pour les Vendéens, hein, par exemple, pour ceux qui rendent visite aux habitants de Noirmoutier, à aller absolument découvrir. Petit reportage tout de suite.
Bonjour, bienvenue à l'île aux papillons, dans la plus grande serre tropicale à papillons de France, où nous avons ici à peu près 1500 papillons.
Des papillons que vous ne verrez jamais ailleurs, sauf si vous voyagez du côté des Philippines, du Costa Rica ou encore du Kenya.
Alors ici, nous nous trouvons devant l'éclosoir, qui est en quelque sorte la nurserie des papillons. Tous les papillons sont élevés, donc dans leur pays d'origine. Ensuite, on les accroche, on les colle sur les baguettes, dans leur position naturelle, donc la tête en bas pour la plupart des espèces. Et les papillons, après, peuvent sortir comme s'ils n'avaient jamais été déplacés, comme s'ils étaient encore sur leur plante haute. Et celui-ci, il vient de naître. Là, ça doit faire une demi-heure, même pas une demi-heure qu'il est sorti. Vous voyez ses ailes, on sent qu'elles sont encore toutes molles. Les ailes sont pas sèches, là. Donc là, on a les chrysalides qui sont complètement vides, et là, on en a une autre qui est prête à naître, là. Donc là, c'est Morphopeleides, qui vient du Costa Rica.
Voilà, l'île aux papillons. Alors c'est fermé d'ailleurs en ce moment, du 28 novembre au 12 février. Donc la serre aux papillons ferme ses portes parce que les papillons sont des petits frileux et qu'ils doivent se reposer et dormir aussi la majorité du temps en période hivernale. Je crois qu'on a un message de Noirmoutier d'ailleurs,
Camille. Oui, Isabelle qui nous écrit qu'elle est surprise de découvrir chaque été à partir de la mi-juillet et en août le passage d'un vulcain qui se pose, dit-elle, toujours au même endroit, toujours aux mêmes horaires entre 18h et 20h, et ceci depuis de très nombreuses années. Elle demande s'il existe une sorte de mémoire chez les vulcains, en l'occurrence Violaine Lurence.
Alors là, vous me posez une colle sur la mémoire chez les Vulcains, parce que ça, je ne sais pas du tout. Par contre, le fait que certaines espèces ne soient observées qu'à certains moments de la journée, ça, c'est quelque chose d'intéressant et qu'on retrouve chez pas mal d'espèces de papillons, dont les morphos. C'est chez les espèces de sous-bois, par exemple, on a des espèces à bandes bleues et noires et qui sont très ressemblantes, mais par contre qui ne volent pas aux mêmes heures. Donc ouais. La plage horaire dans laquelle on peut les observer est en général relativement restreinte. On a même une espèce qui s'appelle Morpho Eugenia qu'on observe notamment en Guyane, pour laquelle en fait on peut l'attraper et donc l'observer que vraiment au moment où le soleil se lève, donc entre on va dire 6h et 6h20 du matin, et après pendant la journée on va quasiment plus jamais l'observer.
Et il ressemble à quoi le Vulcain, Vincent Lebin?
Le Vulcain, c'est un papillon noir et rouge avec des petits points blancs aussi. Un très joli papillon de chez nous.
Et moi, je voulais vous demander, par rapport à ce qu'on entendait là sur l'île aux papillons, ce genre de lieu comme ça, des serres avec des espèces qui ne sont pas du tout endémiques, est-ce que c'est bien en fait? Est-ce que les papillons souffrent?
Non, ils sont très bien traités par les gens qui s'occupent de ce genre de choses. A priori, moi, dans la mesure où je ne connais pas tellement bien ces endroits.
Il faut recréer une température, par contre.
Oui, c'est ça.
Le principe, c'est d'avoir vraiment un milieu qui...
Si on veut avoir des espèces exotiques, il faut créer des conditions qui soient favorables.
Donc on n'a pas parlé de la différence entre les papillons de jour et les papillons de nuit, alors.
Oui, c'est important parce que donc les papillons, c'est un ordre d'insectes très, très diversifié. Il y en a plus de 150 000 espèces décrites, peut-être encore autant à décrire. Et on a sur ces 150 000, 18 000 espèces de papillons de jour. Donc ça fait un peu plus de 10%. Donc à 90%, les papillons sont des papillons de nuit. Alors on a, il y a différentes. C'est très hétérogène. Il y a plein de groupes différents avec des spécificités morphologiques. Le critère le plus simple, les papillons de jour ont généralement des antennes en massue et beaucoup de papillons de nuit ont des antennes un peu plumeuses, ouais, qui sont impliquées dans la perception d'odeurs, de phéromones notamment. Puisque comme c'est des papillons de nuit, ils ont moins de lumière à leur disposition pour se déplacer et pour interagir avec leurs congénères.
Mais les morphos, on peut en trouver la nuit ou absolument jamais?
Alors non, les morphos, c'est des, ouais, papillons de jour.
Eh bien, c'est le dossier de la Terre au Carré cet après-midi. Si vous nous rejoignez avec vos questions, toujours sur franceinter.fr pour nos invités Vincent Debat et Violaine Liorens.
C'était la fille du père Noël, j'étais la fille du père Foucault. je suis tombé là par hasard.
Toute la nuit j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants.
Toute la nuit j'avais donné des cadeaux à tous les enfants.
C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Foutard. Elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean-Baptiste.
Jean Balthazar et la voix d'Arnaud sur France Inter et Thierry Dupin qu'on salue et qui signe la programmation musicale de l'émission.
France Inter, la Terre au carré.
Une émission entière consacrée aux papillons et aux morphos en particulier. C'est la première fois dans la Terre au carré que Vincent Debat et Violaine Liorens, avec vos messages, vos témoignages et nos questions. Parce que, par exemple, Violaine Liorens, la question de la métamorphose, c'est toujours quelque chose qui fascine quand même. C'est une étape, il y a plusieurs étapes d'ailleurs, mais c'est un phénomène qui est très fréquent ou au contraire très rare dans le monde animal.
Alors, en tout cas, chez les insectes, il y a de nombreuses espèces qui ont cette capacité de, enfin cette phase de métamorphose, pardon. Mmh. C'est les insectes qu'on qualifie de holométaboles. Et effectivement, on a parfois des écologies extrêmement différentes de la phase dite larvaire ou chenille chez les papillons et de la phase adulte. Donc, par exemple, chez les moustiques, vous avez les larves qui vivent en milieu aquatique et puis la phase adulte où on a des individus qui se déplacent dans l'air. Donc, on a effectivement un changement extrêmement important au cours de la vie de ces animaux.
Un certain Polyakov nous écrit, Vincent Debat, quel papillon a la durée de vie la plus longue et est-ce que ça peut se compter en années ?
Alors, je ne pourrais pas vous répondre exactement sur le record. Je sais qu'il y a certains papillons de nuit qui ont des phases larvaires qui durent très longtemps, plusieurs années. J'ai en tête 7 ans pour une espèce, mais bon, peut-être que c'est... Enfin, je n'ai pas étudié ça, mais ce qui est important à expliquer quand on pose cette question de la durée de vie, c'est que souvent les gens pensent au papillon, ils voient le papillon adulte. Donc la durée de la phase adulte est plus ou moins courte, elle est centrée vraiment sur l'activité de reproduction, mais il ne faut pas oublier tout le cycle. Et on a des papillons qui peuvent vraiment vivre longtemps. Nous, sur les morphos, le record, c'était 3 mois à peu près. On a capturé le même individu, parce qu'on a fait des manips où on les a marqués, relâchés.
Donc 3 mois adultes, vous voulez dire ?
3 mois adultes. On l'a chopé, il était... intact, vraiment tout beau, tout neuf, et on l'a récupéré.
Et vous l'avez enterré.
Quasiment, il était.
Non, il volait encore.
Il volait encore, mais il était un peu miteux. Ah,
Violaine Liorens, il paraît que les larves sont cannibales chez les morphos, c'est vrai ça ou c'est une légende?
Alors ça arrive, oui, il y a certaines espèces où les femelles pondent plusieurs et de nombreux œufs, en fait, par exemple, la même feuille d'une même plante, et il peut y arriver des événements de cannibalisme, oui, entre larves. Ça peut arriver.
Mais une fois en vol, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a quand même une assez bonne cohabitation puisque vous expliquiez que visiblement ils ont des horaires, c'est-à-dire ils sont tous sur le même territoire et ils ont chacun leur créneau pour aller voler.
Alors ce qu'on pense, c'est que effectivement quand on a des espèces proches, il y a un fort coût en fait pour les mâles à tenter de draguer en fait des femelles d'une autre espèce. Et ça génère une sélection qui favorise l'évolution de préférences horaires, on va dire différentes des espèces proches. Et donc au fur et à mesure du temps, ce qu'on peut observer, c'est effectivement l'évolution de niches, ce qu'on appelait niches temporelles ou de plages horaires différentes entre espèces qui vont vivre dans les mêmes localités.
Vincent Debat, votre doctorant Camille Leroy qui nous écoute, il vous a donné la réponse sur la vitesse de déplacement du papillon morpho, alors, là ou pas? Oui, alors vous avez tous les deux vos portables, donc vous avez tous les deux la même réponse.
Ah, c'est ça. Non, vous voyez, tous les deux.
C'est quoi,
donc,
alors?
C'est 3 mètres secondes pour les morphos de sous-bois et 2 mètres secondes pour les morphos de
canopée.
3 mètres
de canopée.
Et il vous a même calculé la vitesse en kilomètres heure. Ça fait à peu près 11 kilomètres heure.
Et moi j'ai calculé, j'ai fait plus fort que lui presque. J'ai calculé en proportion ce que ça faisait, puisque vous m'avez dit, Vincent Debat, c'était à peu près 10 cm un papillon. Donc ça veut dire qu'il fait en une seconde 30 fois sa longueur. Donc Mathieu Vidard, par exemple, en une seconde, volerait 55 mètres.
Oh là là.
C'est pas mal.
Il va plus vite que Usain Bolt.
Je vais m'entraîner aux 100 mètres. Je vais faire des étincelles au prochain JO.
C'est pas pareil, c'est du vol.
Merci beaucoup en tout cas. À tous les deux, c'était passionnant. Merci aux auditrices et auditeurs pour les messages. Et puis je renvoie aussi sur ce livre de Serge Berthier, L'éveil du morpho, si vous souhaitez en savoir plus sur cet animal. C'est aux éditions Flammarion.